Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
On retourne à l'eau pour parler des étangs qui sont présents un petit peu partout dans notre territoire. La problématique des étangs qui s'invite dans le débat sur l'eau. Et cela depuis l'arrêté d'août 2023 qui encadre leur vidange.
Exactement.
Quel est le souci Ludo?
Notre département compte environ 3500 étangs, dont la plupart sont privés. Les propriétaires aujourd'hui sont inquiets et les professionnels de la pêche, je dirais qu'ils sont un peu sonnés. Effectivement, depuis un mois, de nouvelles règles pour la vidange des étangs ont été fixées par un arrêté du ministère de la Transition écologique. Donc plusieurs associations du Poitou-Charentes ont contesté cette décision devant le Conseil d'État. Mais ce dernier a confirmé l'arrêté ministériel qui interdit actuellement les vidanges. Cet arrêté a été mis en place pour réguler la période des vidanges, le tout encadré par le plan global de la gestion de l'eau. Ce qui a pour conséquence, d'un point de vue pratique, de réduire drastiquement la période où il est possible de vider son plan d'eau. Donc, hormis dérogation individuelle de la préfecture, ce qui a pour conséquence de réduire drastiquement la période où il est possible de vider son plan d'eau, hormis dérogue individuelle de la préfecture.
Dérogation.
Exactement, oui. Habitué hein, à vidanger les étangs entre octobre et février, je dirais de manière globale, selon la maturité du poisson, et ce qui permettait aussi de les remplir, ces plans d'eau, après la vidange, désormais, les vidanges seront interdites entre le 1er novembre et le 31 mars inclus.
Alors, quel est l'objectif de cette réforme du ministère de la Transition écologique?
Alors, c'est encore cette fameuse gestion de l'eau, je dirais, en quantité pour les périodes sèches, mais aussi pour sa gestion qualitative. Donc, réinjecter de l'eau dans le circuit au moment où il y en a le moins, la période d'étiage, on appelle ça, cela permet de garder une biodiversité et une oxygénation, par exemple, de l'eau, en limitant les eaux stagnantes. Mais il y a aussi question du remplissage ensuite et de la gestion des poissons. Donc, cela rejoint le débat de la continuité écologique, dont on a déjà parlé, sur les rivières, par exemple. Et même si on trouvera des accros dans la cohérence, comme le dit désormais la célèbre formule, on peut préciser que tout cela concerne les plans d'eau de plus de 1000 mètres carrés et que vous êtes censé déclarer la vidange de vos plans d'eau au-delà de cette surface. Cette déclaration, je l'ai regardée, a fait 9 pages sans les pièces justificatives. Et ça, c'est à réclamer auprès de votre DT.
On ne s'étonnera pas si certains ne le font pas. Les pisciculteurs sont donc mécontents?
Oui. En Deux-Sèvres, nos pisciculteurs vont devoir s'adapter pour réussir à vivre de leur métier. Certains sont déjà plus réactifs. 75% de cette production de pisciculture en fait est valorisée sur le marché du repeuplement de rivières, de bassins, de lacs et d'étangs. Suivi du marché ensuite de la consommation humaine sur à peu près 22% de ce volume. Les principales espèces élevées sont donc la carpe, le gardon, la tanche et au niveau des carnassiers, le brochet et le sonde par exemple. Il faut donc faire la différence entre la salmoniculture qui elle se consacre donc à l'élevage des salmonidés, c'est-à-dire les truites et les saumons.
Mmh.
Voilà, donc peut-être que les rillettes et les filets de truites que vous allez consommer pendant les fêtes viendront de cette salmoniculture. Et ceux qui travaillent principalement pour l'alimentation humaine et non le repeuplement en rivière ou en plan d'eau.
C'est un métier assez peu visible finalement Ludo, mais c'est est encadré forcément.
Oui, largement encadré je dirais, on fait pas ce qu'on veut quand on est pisciculteur.
Tu veux dire trop encadré,
je sais pas, mais je me suis plongé un peu dedans et c'est vrai que ça me paraissait quand même assez lourd. L'administration je dirais en tout cas ne les oublie pas. Il y a la pisciculture en eau close, il y a la pisciculture en eau libre, tout cela est encadré, déclaré. L'objectif pour le pisciculteur reste quand même de faire pousser ses poissons je dirais, sans les faire communiquer entre le milieu extérieur de l'étang et son plan d'eau à lui. Pourquoi? Pour ne pas coloniser le milieu en aval du plan d'eau.
Et oui, comment se passe la production de poissons alors en étang?
Alors oui, d'un point de vue un peu pratique, la production en étang est clairement variable puisque c'est un milieu vivant en fonction des facteurs comme la situation géographique et géologique de cet étang, l'alimentation en eau, la configuration de l'étang. Bref, l'écosystème d'un étang est complexe et difficile à maîtriser. Pour obtenir de bonnes performances en croissance, mais aussi en reproduction, puisque les poissons vont se multiplier, il faut maîtriser la mise en charge des étangs, c'est-à-dire son empoisonnement.
Son empoisonnement.
Ouais. Le pisciculteur doit apprendre à connaître son étang, en fait. Ta charge est à ajuster en fonction du milieu. Elle peut varier, dans ce qu'on nous explique, de 65 à 120 kilos de poissons à l'hectare d'eau. Beaucoup de combinaisons sont possibles. Et par exemple, si vous voulez élever des carpes, les proportions standards sont de 63% de carpes, 15% de tanches, 15% de gardons et 7% de carnassiers. Donc en étang, vous pouvez produire par exemple 450 kg de poissons par hectare et par rang. Et en bassin, donc là, hors milieu naturel, on peut atteindre plus de 2 tonnes par hectare et par an de poissons produits.
2 tonnes et demie par hectare
jusqu'à 2 tonnes. Oui, en truite par exemple. Et dans la pisciculture, on peut quand même expliquer qu'il y a des extensifs plus productifs. Ceux qui mettent de l'aliment acheté et ceux qui produisent du blé et du maïs pour nourrir leurs poissons, par exemple.
On alimente donc les poissons en étang. Ils ne se débrouillent pas tout seuls, ces poissons.
On ne les voit pas, mais si vous allez voir un pisciculteur, vous verrez, il nourrit ses poissons le matin. Donc pour la croissance des poissons et répondre à leur multiplication. Donc le pisciculteur peut y nourrir, comme on vient de le dire, pour produire plus, mais il peut aussi favoriser la production de plancton par une fertilisation minérale, azotée souvent, ou une fertilisation organique en mettant du fumier ou du lisier. utilisés dans les étangs. Une tonne par hectare, par exemple. Donc cela va favoriser la croissance du poisson.
Les pisciculteurs, Ludo, sont-ils gênés alors par la sécheresse?
Eh bien oui. Cela impacte la production et donc la viabilité de leur activité. Mais il y a un autre souci pour eux, le cormoran, cet oiseau prédateur de poissons, leur engendre de lourdes pertes et les installations en pisciculture d'étangs sont de plus en plus rares.
Le héron aussi peut-être?
Oui, mais beaucoup moins que ce fameux cormoran.
Ah ouais. Et pourquoi mettons de la chaux dans les étangs?
Et oui, parce que c'est une question
c'est
qu'on pose
souvent. C'est vrai qu'on le voit souvent, ouais.
C'est vrai. Et en discutant, on se rend compte que bah, on met de la chaux, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Alors, à sec, au fond d'un étang, elle détruit les parasites, en fait, cette chaux. Et en eau, on pourra la mettre pour favoriser le pH de l'eau, qui favorise, lui, la production de poissons. Et ça servira aussi à gérer la qualité de l'eau. La chaux rend votre eau plus forte. On dit, d'un point de vue technique, plus alcaline. Et en fait, cette alcalinité sert face aux substances nocives qui ne pourront alors moins proliférer ou pas du tout. Et le pH, en plus, lui, variera moins. Donc, l'excès de chaux peut faire des dégâts. Il faudra aussi donc faire attention à ce que vous mettez.
Et dernière petite question, Ludo. Comment appelle-t-on l'élevage de grenouilles?
Alors,
grenouilleur.
Un grenouilleur.
Et non, ça n'a rien à voir. On a l'impression que ça éclaira.
Exactement. C'est la ranaculture, si vous voulez.
Rana ou Rani?
Rana.
Eh oui, c'est très moche.
C'est pas joli, mais c'est bon.
C'est raniculture.
Bah, les deux existent.
Donc tu me dis ranaculture, moi j'avais en tête raniculture et les deux en fait sont exacts.
Raniculture pour l'élevage des grenouilles et ranaculture pour l'élevage des grenouilles rousses, visiblement. Raniculture, c'est pour
l'ensemble des grenouilles. Et toi, tes grenouilles?
Ranaculture, visiblement, c'est grenouilles rousses. Donc voilà, s'il y a un professionnel qui nous écoute et qui veut bien nous éclairer là-dessus, ce serait sympa en fait.
C'est déjà plus joli, raniculture qu'un ranaculture.
Et ça fait penser, moi ça me fait toujours penser aux Enfants du Marais.
Ah oui.
Le grand film.
Ah oui,
Renette,
le superbe
Michel Serrault.
Ah oui, t'as raison. Merci Ludo.
Bonne journée, ciao.